France Inter.
Et voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les ados et les couteaux, la mort d'Elias ce week-end à Paris pose la question de la prolifération des armes blanches dans les écoles parisiennes. La ville adopte un plan d'action, explication dans un instant. À suivre encore la proposition de loi contre le narcotrafic examinée au Sénat avec l'ambition de taper le portefeuille des trafiquants. Nous verrons cela, nous verrons aussi comment les Colombiens gèrent leur prison. À la une encore, la situation en République démocratique du Congo, situation qui a dégénéré ce matin. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
L'ambassade de France a été attaquée.
Oui, les manifestants ont lancé des pneus en feu sur la façade. L'incendie est maîtrisé.
A tout de suite pour plus d'informations. Toujours 3 départements en vigilance rouge pour les crues. Nous serons à Redon, en Ille-et-Vilaine. Et nous rendrons hommage à Catherine Laborde, présentatrice météo historique de TF1 et sa voix inoubliable.
Bonsoir. C'était un beau dimanche et ce lundi sera aussi ensoleillé. Pourquoi ? Parce que nous sommes encore protégés par un anticyclone. Après, c'est une autre histoire. Après, il faut surveiller les nuages, pas ceux qui sont là, non, ceux qui sont ici, sur la péninsule ibérique.
Nous avons appris sa disparition ce matin à l'âge de 73 ans. Un Français vainqueur des Jeux Olympiques de la gastronomie, Paul Marcon, Bocuse d'Or. 30 ans après son père Régis, il est notre invité dans quelques minutes. À partir de 13h30, pourquoi les Français sont-ils les champions de l'épargne ? Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour notre économie ? Après le record d'épargne enregistré l'an dernier, venez nous expliquer comment vous gérez votre argent. 01 45 24 7000. 13h50, c'est la France, ces villes qui font la chasse aux mégots. Ce sera avec Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, une jeune comédienne, Céleste Brunkel, demande Brigitte Fontaine dans C'est une chanson. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Il y a la mort d'Elias, poignardé à sa sortie de l'entraînement de foot vendredi soir dans le 14e arrondissement de Paris pour avoir refusé de donner son portable à ses deux agresseurs. Et puis il y a les chiffres du rectorat de Paris, 74 agressions au couteau ou arme blanche en 2023-2024 dans les collèges parisiens, 38 dans les lycées et 18 en primaire, chiffre donné ce matin par nos confrères du journal Le Parisien aujourd'hui en France. À tel point que la ville, le rectorat et la préfecture de police ont mis en place un plan de sécurité dédié. Bonjour Sonia Princé.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer dans un instant de quoi il retourne. D'abord, écoutons les élèves, ceux du collège-lycée où était scolarisé le jeune Elias dans le 6e arrondissement, une cellule psychologique qui est toujours ouverte aujourd'hui. Sandrine et toi, Andeg.
On est tous un peu en deuil, décrit cette collégienne à la sortie de la cité scolaire Montaigne. Derrière elle, plusieurs bouquets de fleurs au pied de la statue à l'accueil.
Que ce soit élève ou professeur, on en parle souvent entre nous.
Beaucoup de ces jeunes élèves racontent s'identifier à Elias, poignardé pour son téléphone à 2 semaines de son 15e anniversaire, est mort des suites de ses blessures.
Tout le monde est un peu choqué et tout le monde a un peu peur parce qu'on se dit que ça lui arrive à lui, mais ça peut arriver à n'importe qui.
N'importe qui, n'importe quand. Et c'est ça ce qui est choquant surtout.
Il y a aussi la sidération triste des enseignants, poursuit cette collégienne.
Et par exemple, notre professeur de musique nous en a parlé et il était au bord des larmes et il pleurait, oui.
Il vous a dit quel mot ?
Il nous a dit qu'il l'avait eu en 6e et 3e et que... Il ne devrait pas nous en parler, mais que c'était très choquant et il voulait en parler pour se libérer un peu.
La cellule psychologique, composée notamment de médecins, d'infirmières scolaires et de psychologues, restera en place aussi longtemps que les élèves et le personnel en ressentiront le besoin, selon le rectorat. Une minute de silence sera organisée dans l'établissement prochainement, en accord avec la famille de la victime.
Sonia Princé, cet adolescent n'a pas été agressé à l'école, je le rappelle, mais ses agressions à l'école sont en hausse, nous dit le rectorat. D'où ce plan des autorités ? De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un plan de prévention du port de couteaux et armes blanches chez les jeunes, initié par la ville de Paris, avec les professionnels de l'éducation, de la justice, de la police. Un film sera diffusé dans les classes des établissements parisiens. Des flyers seront distribués pour faire quelques rappels aux adolescents, car c'est devenu presque normal de mettre un couteau dans son cartable ou dans son sac de sport, selon Nicolas Nordman, adjoint à la mairie de Paris, chargé de la prévention, de la sécurité et de la police municipale.
L'idée, c'est de dire que porter une arme blanche, c'est dangereux. Et le message sous-jacent, c'est de dire aussi, c'est interdit. Le fait de porter un couteau dans son cartable, c'est répréhensible d'1 an de prison, 15 000 euros d'amende. Et donc, c'est ces messages-là que nous voulons délivrer. Avec des interventions en milieu scolaire, principalement dans les collèges, avec une présence et des interventions dans la rue, c'est par exemple les éducateurs spécialisés, mais c'est aussi nos médiateurs de la ville qui vont, aux sorties des établissements scolaires, aller à la rencontre des jeunes pour discuter avec eux et leur faire passer ces messages.
Des policiers ou des médiateurs passeront dans les classes dans le cadre de cette campagne de prévention. La ville de Paris prévoit de doubler le nombre de ces médiateurs pour atteindre un effectif d'une centaine. Ils seront déployés aux abords des centres sportifs et des établissements scolaires sensibles.
Merci Sonia Princé. J'ajoute que le débat est aussi politique. Les deux agresseurs d'Elias avaient déjà été présentés devant un juge pour des faits de vol commis avec violence. La justice des mineurs en France est un fiasco, a réagi ce matin le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui demande que des comparutions immédiates pour les mineurs soient possibles. La marche de la justice qui intéresse également les sénateurs aujourd'hui. Il commence l'examen d'une proposition de loi pour lutter contre les trafics de drogue, texte porté par deux sénateurs, l'un républicain, l'autre socialiste. Ce texte prévoit la création d'un parquet national anticriminalité organisée, l'immunité pour les repentis, mais aussi la possibilité de saisir plus facilement l'argent et les biens des trafiquants. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Car c'est aujourd'hui l'un des gros points faibles dans la lutte anti-drogue.
Oui, beaucoup de trafiquants considèrent la prison comme un simple accident de parcours parce qu'ils savent qu'à leur sortie, ils vont retrouver leur belle maison ou leur voiture de luxe. D'où cette volonté de cibler les finances et d'abord le blanchiment, hein, puisque les consommateurs achètent la drogue en liquide. Il faut ensuite réinjecter cet argent dans le circuit classique, ce qui se fait beaucoup par des commerces dont les élus locaux voient bien qu'il ne s'y passe pas grand-chose. La proposition de loi prévoit que les préfets pourront les faire fermer, puisqu'aujourd'hui il faut trouver un prétexte comme des problèmes d'hygiène ou de sécurité. Par ailleurs, si quelqu'un n'a pas déclaré les bénéficiaires d'une société dans les 6 mois, elle pourra être radiée du registre. Le texte, s'il est adopté, permettra aussi de geler sous 48 heures les avoirs des trafiquants pour 6 mois renouvelables, afin d'éviter que l'argent file à l'étranger. Tout ça face à un trafic estimé en France à 3 à 6 milliards d'euros par an. Et avec une immense interrogation, quels moyens, puisque les enquêteurs spécialisés dans la finance vous disent qu'ils ne sont pas assez nombreux et pas toujours assez considérés quand une photo de saisie de cocaïne permet politiquement beaucoup plus facilement d'afficher de prétendus résultats que le suivi des flux financiers.
Ariane Grissel, l'intitulé de ce texte, c'est donc « Sortir la France du piège du narcotrafic ». Narco est un mot espagnol, il signifie « trafiquant de drogue » et a été popularisé en Amérique du Sud. C'est là que sont nées beaucoup des propositions faites aujourd'hui par les responsables politiques français. Par exemple, cette idée du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, de regrouper tous ces trafiquants dans une seule et même prison. La séparation des détenus, qui est déjà la règle en Colombie, avec une efficacité qui reste à démontrer. Reportage sur place, Najed Benrabah.
Deux à trois fois par semaine, Juliana Zuluaga organise un atelier dans la prison de haute sécurité de Medellín. Les détenus qui y participent créent des bracelets qui seront vendus pour aider leurs familles. Et l'IMPEC, l'institut national qui gère les prisons, sépare déjà les narcotrafiquants des autres détenus. Juliana le constate dans la prison où elle travaille, elle n'a pas accès à cette zone.
Je ne crois pas que finalement ça fasse une réelle différence. Cela ne fonctionne pas ici et ça n'a jamais fonctionné.
En Colombie, la surpopulation carcérale dépasse les 25%, soit plus de 20 000 détenus en trop. Depuis février 2024, les prisons sont en alerte. Plusieurs fonctionnaires ont été tués ou menacés de mort par des narcotrafiquants. Alors la priorité pour les autorités est de désengorger les prisons. Des projets dits de méga-prisons sont à l'étude. Carlos Alberto Arcia Valencia, secrétaire de la paix et des droits de l'homme de Medellín.
C'est une solution à court terme. On doit réfléchir sur le long terme et c'est le gouvernement national qui doit élaborer une politique globale de protection.
La Colombie lutte depuis des décennies contre les narcotrafiquants, mais ils continuent de dicter leurs lois dans les prisons colombiennes. Najed Benrabah, Medellín, France Inter.
Toujours à l'étranger, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu en Algérie, est sorti de l'hôpital pour retourner en prison. Information donnée ce matin par le ministre des Affaires Jean-Noël Barrot. Un ministre qui a aussi dénoncé dénoncé il y a de cela quelques minutes, je le cite, une attaque inadmissible à Kinshasa. L'ambassade de France, comme d'autres ambassades, a été prise pour cible ce matin par des manifestants. Nathanaël Charbonnier, on vous retrouve. C'est la chute de la ville de Goma dans l'est du pays qui a déclenché ces violences.
Oui, alors on peut voir beaucoup de rassemblements actuellement à Kinshasa, dans différents endroits de la ville, des pare-brises de voitures cassées, des pneus brûlés, des ambassades encerclées et en feu, comme celle donc du Rwanda, celle de la France, où la façade est noircie. Les manifestants ont également visé les ambassades d'Ouganda, du Kenya et des États-Unis. Rassemblement de jeunes aussi devant l'aéroport de Kinshasa. Ils souhaitent décoller pour se rendre dans l'Est et défendre Goma. C'est une journée vraiment sous tension qui se déroule en RDC, avec ce sentiment que personne ne défend le Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est bien réuni dimanche et a lancé un appel au retrait du fameux groupe M23 et des forces rwandaises. Mais ce n'est pas assez pour les Congolais. Il faut dire que le Rwanda bénéficie à leurs yeux du soutien de l'Occident et de bien d'autres. Soutien réel et stratégique des États-Unis, de la Grande-Bretagne, soutien de la Chine qui est le premier investisseur étranger dans le pays, soutien de la Russie qui a des projets dans le nucléaire civil avec le Rwanda. À cela s'ajoute l'Union européenne qui, en novembre dernier, avec le soutien de la France, a accordé une nouvelle enveloppe de 20 millions d'euros dans le cadre de la Facilité européenne pour la paix, afin de soutenir le déploiement des forces rwandaises au Mozambique, pays en pleine crise. Or, certains s'interrogent sur l'utilisation de cet argent par le Rwanda, d'où la colère en partie de la population ce mardi.
Précision signée Nathanaël Charbonnier. Ce matin, le Comité international de la Croix-Rouge a alerté sur les risques de dissémination de virus, dont le virus Ebola, à partir d'un laboratoire qui est situé donc dans la ville de Goma, dans l'est de la RDC. Cette ville qui est en proie depuis plusieurs jours maintenant à de violents combats. Un dernier mot à l'étranger, en Serbie. Démission du Premier ministre ce matin. Il faisait face depuis des semaines à un mouvement de protestation anti-corruption après la mort de 15 personnes dans l'effondrement d'une partie de la gare de Novi Sad. C'était le 1er novembre dernier.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Elle avait toujours cette voix douce, quels que soient les caprices du ciel. C'est sans doute aussi pour cela que les téléspectateurs de TF1 l'ont écoutée avec autant d'attention entre 1988 et 2017. La présentatrice météo Catherine Laborde est donc morte aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Bonjour Fanny Imbert.
Bonjour Jérôme.
Elle souffrait d'une maladie neurodégénérative depuis 2014 dont elle avait fini par parler publiquement.
Oui, elle a accompagné 7 millions de téléspectateurs en moyenne tous les soirs sur TF1 pendant 28 ans de pluie et de beau temps, de sa voix pétillante et rieuse. Pourtant, pendant les 4 dernières années de sa carrière, elle affronte, sans rien dire à personne, la maladie à Cordes-Lévy, dont certains symptômes ressemblent à Alzheimer. À la télévision, mais aussi au théâtre, l'une de ses grandes passions. Ses mains tremblent, certaines phrases se chevauchent. « Je ne trouvais plus le mot nuage », raconte-t-elle dans son livre « Trembler », où elle revient sur sa maladie. Alors, forcément, son dernier bulletin en 2017 est particulièrement émouvant.
Voilà, je vous ai raconté donc aujourd'hui le temps qu'il fera demain. Mais il y a aussi le temps qui passe, et ce temps-là, c'est le temps où je vais vous quitter. Je vous emporte avec moi. Vous m'oublierez ? Moi, non. Je vous aime.
Sur les réseaux, sa sœur Françoise, longtemps journaliste pour France 2 et membre de l'ARCOM, témoigne « Tu es partie ». Tout doucement, silencieusement et apaisé, dit-elle.
Merci Fanny Imbert, ce qui nous amène tout naturellement à la situation météo capricieuse dans l'Ouest depuis quelques jours. De nombreux départements sont sous les eaux, Calvados, Orne, Mayenne, Maine-et-Loire en vigilance orange crue, Morbihan, Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine en rouge. Ille-et-Vilaine où 600 personnes ont été évacuées depuis dimanche, dont 70 hier soir dans un EHPAD sur la commune de Bruxelles. C'est au sud de Rennes. Et les eaux continuent de monter. C'est le cas de la Vilaine qui arrose la ville de Redon. Nous sommes au sud-ouest de Rennes. Redon, vous vous trouvez. Bonjour Caroline Félix.
Bonjour.
Vous êtes entre la rivière et le canal de Nantes à Brest. Les habitants se préparent à leur tour à la montée des eaux.
Oui, parce que vous l'entendez, le débit de la Vilaine, eh bien, il est bien plus fort que d'habitude. L'eau est arrivée au même niveau que le trottoir où nous sommes garés. Et face à moi, je ne distingue plus le canal du parking sous l'eau, avec deux voitures oubliées. On ne voit plus que leur toit. Alors, dans les rues autour, les habitants ne sont pas encore touchés, comme Georges qui regarde l'eau monter lentement depuis hier soir, 10 cm par heure. Le fleuve vient désormais lécher la façade de sa maison.
Moi, j'ai mis des bâtards d'eau, donc je suis serein. Il fait un mètre, c'est très efficace parce que l'eau ne traverse pas. En principe, je ne devrait pas être inondé. Au cas où, j'ai des pompes qui me permettent de rejeter l'eau dehors.
Patricia, elle habite un peu plus haut. Nous la croisons avec son sac de sport. Elle va chez des amis avec des affaires pour 2 jours.
Nous, on a surtout peur aux coupures d'électricité. Je ne serai pas inondée, mais de toute façon, la situation nous empêchera, si vous voulez, d'avoir du chauffage. Et ma voiture, j'espère que le parking n'est pas inondé là-bas. Donc j'essaie de faire vite.
Et un peu plus au sud de Redon, Sandra a installé des parpaings sous tous ses meubles chez elle. Et elle racle l'eau hors de chez elle.
Mais bon, c'est exceptionnel. Et on espère que ce soit bon là maintenant. Mais bon, en fait, on pensait que on serait un peu plus en hauteur et qu'on serait épargné comme dans les autres années. Mais non, là, cette fois, c'est une autre vague, on va dire. Bah, s'il faut évacuer, il faut évacuer, on n'a pas le choix.
Et s'il faut évacuer, elle sait où aller puisqu'elle est propriétaire d'un hôtel en hauteur dans le centre-ville de Redon.
Voilà pour cette crue historique à Redon et dans toute la région. Caroline Félix en direct avec les moyens techniques de Raymond Albouy. Tout cela alors qu'une nouvelle tempête arrive, la tempête Ivo, qui déferlera sur la Bretagne demain. Des rafales de vent à 130 km/h sont attendues. Prévision météo complète dans 15 minutes. Demandez un résumé de la météo dans une ville pour les 24 prochaines heures, par exemple. Voilà une requête pour l'intelligence artificielle, ce que certains prévisionnistes font déjà par ailleurs. L'IA, qui est une révolution en cours, d'où la difficulté d'en mesurer les avancées en temps réel. Il y a une semaine, Donald Trump annonçait un plan à 500 milliards de dollars pour construire des infrastructures capables d'entraîner des modèles encore plus complexes. Et on pensait alors les Américains loin devant. Et bien voilà que les Chinois répliquent ces derniers jours leur robot conversationnel. Baptisé DeepSeek, est devenu l'application gratuite la plus téléchargée sur l'App Store américain d'Apple. Tout cela à la surprise générale. Alors pour comprendre, remontons à la source, en Chine. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous y êtes notre correspondant. Sébastien, que sait-on de cette réussite chinoise qui, vue d'ici, semble venir de nulle part ?
Alors, il y a d'abord le récit qui est fait dans la presse chinoise sur l'incroyable succès de DeepSeek, créé il y a 2 ans à peine à Hangzhou, l'un des hauts lieux de la high-tech en Chine. Le fondateur Liang Wenfeng réunit à l'époque autour de lui de jeunes ingénieurs très ambitieux, issus des meilleures universités chinoises. Une petite équipe qui réussit, avec seulement quelques milliers de puces au départ, à créer l'un des systèmes d'intelligence artificielle les plus performants au monde, avec un investissement minime, moins de 6 millions de dollars, chiffre impossible à vérifier, mais le résultat est là. Et ce qui étonne en particulier, c'est que les Chinois ont pu mettre au point leur modèle d'intelligence artificielle malgré les restrictions imposées par les États-Unis sur les exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine, des composants qui sont pourtant indispensables pour créer un robot conversationnel.
Sébastien, comment les Chinois ont-ils réussi techniquement et avec, c'est ce qu'ils nous disent, avec aussi peu d'investissement ?
Alors, c'est d'abord la preuve que la Chine dispose quand même de compétences extrêmement avancées. L'équipe de DeepSeek a su développer de nouvelles techniques pour économiser de la mémoire et faire face à cet embargo américain. Ce succès peut également s'expliquer par ce qu'on appelle la stratégie du suiveur, celui qui innove en premier paye le prix fort, ce sont donc les États-Unis. Et souvent, ceux qui arrivent derrière, comme DeepSeek, bénéficient des recherches initiales, ce qui facilite leur travail. Ça peut donc expliquer la réussite très rapide des Chinois, sans trop dépenser.
Et ça peut donc donner des motifs d'espoir aux Européens. Merci Sébastien Berriot. Bonjour Stéphane Jourdain.
Bonjour Jérôme.
Spécialiste des nouvelles technologies à la rédaction d'Inter. Stéphane, malgré ce que nous disent les Chinois, il faut quand même encore des investissements colossaux.
Oui, DeepSeek a entraîné ses modèles avec des moyens beaucoup plus légers que ses cousins américains, on est à peu près certain de ça, et pour des résultats bluffants, vous l'avez dit. Mais ça, Jérôme, ce sont un peu les conditions de laboratoire, car maintenant, il faut faire face aux conditions réelles, et donc aux millions de requêtes qui arrivent du monde entier, puisque tout le monde, absolument tout le monde, veut tester DeepSeek. Et pour l'instant, ça ne suit pas, comme le souligne Julien Launay, PDG d'une start-up qui permet de tester ces modèles d'IA.
Mais là, par exemple, aujourd'hui, si vous allez sur l'application DeepSeek, c'est très ralenti, il y a souvent des erreurs, parce qu'ils n'ont pas toute cette infrastructure qui permet ensuite de servir ça à des millions d'utilisateurs. Dans ces méga investissements qu'on voit d'OpenAI, Meta ou Anthropic, on sous-estime beaucoup la part qui sert simplement à amener cette technologie, non pas à la créer, mais à amener ensuite cette technologie à des millions d'utilisateurs.
Bref, ce n'est pas la fin des méga investissements dans l'IA, loin de là. Ce matin, il m'a fallu plus de 2 heures pour enfin pouvoir poser une question à DeepSeek. Et quand ça a fini par marcher, je lui ai demandé si ses bonnes performances marquaient la fin de la course au gigantisme dans le secteur. Sa réponse: c'est peu probable, j'ai été entraîné avec un grand nombre de supercalculateurs.
Scepticisme donc, merci Stéphane Jourdain pour ses explications. Parmi les dizaines, centaines d'annonces de Donald Trump depuis son entrée en fonction, certaines trouvent déjà leur traduction. C'est le cas de sa volonté de changer des noms de montagnes, de mers ou d'océans. Le golfe du Mexique par exemple, qu'il voulait rebaptiser Golfe des Amériques. Bonjour Clémentine Sabrier.
Bonjour.
Eh bien, première victoire pour Trump, Google Maps accède à sa demande.
Le géant du web affirme qu'il fait comme d'habitude en suivant les décisions des gouvernements. Mais pour le géopolitologue Franck Tétard, auteur du Dessous des cartes, La puissance et la mer, Google répond surtout à un enjeu économique.
Il s'agit de contenter des clients. On est sur une entreprise privée. Donc là, on voit bien que le client américain et notamment l'administration de Trump a gagné et elle a réussi à convaincre cette entreprise de changer ce nom.
Google fera la modification pour ses 2 milliards d'utilisateurs dès que le nom sera remplacé dans la base de données des noms géographiques des États-Unis. Les utilisateurs américains verront donc le nom Golfe d'Amérique s'afficher sur la carte. Pour les Mexicains, ce sera toujours Golfe du Mexique qui apparaîtra. Et dans les autres pays, par exemple en France, quand on zoomera sur la carte, on verra les deux noms. Ce qui ne veut pas dire que ce changement est officiel au niveau international, rappelle Franck Tétard.
Il y a un office aux Nations Unies qui s'occupe des dénominations. Pour l'instant, il s'agit toujours du Golfe du Mexique. Donc, on voit bien que les intérêts internationaux et la reconnaissance internationale et celle des entreprises diffèrent sur ces contentieux territoriaux.
Google Maps va aussi changer le nom du plus haut sommet d'Amérique du Nord, le mont Denali en Alaska. Il deviendra le mont McKinley, du nom du 25e président américain, conformément, là encore, au souhait de Donald Trump.
Merci Clémentine Sabrier. Débat américain sur l'immigration qui semble avoir des échos en France. Interrogé sur la chaîne LCI hier soir, le Premier ministre François Bayrou a expliqué que certains Français pouvaient éprouver, je cite, un sentiment de submersion face à l'immigration. Réaction ce matin de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Je n'aurais jamais tenu ces propos et ils me gênent. Dans ce contexte, les représentants de l'hôtellerie-restauration, eux, redoutent les effets de la nouvelle circulaire du ministre de l'Intérieur qui veut des règles beaucoup plus strictes en matière de régularisation. Or, la main-d'œuvre étant étrangère est essentielle dans nos métiers en tension, disent ces professionnels. Reportage dans un restaurant du 2e arrondissement de Paris. Mariam El Kurdi.
Dans ce restaurant parisien, 24 salariés, dont un quart d'étrangers, notamment à des postes clés, souligne la co-gérante Eva Fontaine, très inquiète des annonces de Bruno Retailleau.
Il y a notamment les commis de cuisine du week-end, le chef de cuisine du week-end. Il y a le commis de cuisine du soir. Ce sont des postes qui sont difficiles à pourvoir. Et donc, nous avons réussi à trouver. Nous avons formé, nous avons fait régulariser. Et recruter à nouveau risque d'être difficile. Ça peut mettre en difficulté notre activité.
Parmi ses salariés, Baba Silla, en poste dans la cuisine depuis un an. Le Sénégalais de 50 ans vit en France depuis 2009.
J'ai 8 ans d'expérience. J'ai une vie privée familiale. Ma femme elle est française, ma fille est française.
Il a obtenu une carte de séjour en 2018 qu'il lui faut déjà renouveler régulièrement, non sans difficulté.
Depuis 2023, ils ne m'ont donné que 3 mois.
Pour le chef cuisinier Régis Fèvre, il faut faciliter les démarches d'obtention renouvellement des papiers pour les étrangers travaillant dans la restauration et pour cela reconnaître qu'ils exercent des métiers dits en tension.
Ce serait bien parce qu'on en a besoin. Du plongeur au cuisinier, au barman, on en a besoin.
D'où la demande de rendez-vous de l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration avec Bruno Retailleau. Pour l'instant, pas de retour du ministre.
Reportage Mariam El Kurdi. C'est le trophée que convoient tous les chefs du monde, le Bocuse d'or, du nom du grand chef français Paul Bocuse. Ce trophée a été décerné hier à Lyon, capitale de la gastronomie française. Un chef dont le nom nous parle, c'est Paul Marcon, 28 ans, qui a décroché ce Graal 30 ans après son père Régis. Paul Marcon, qui est l'invité de ce 13-14. Bonjour.
Bonjour.
La nuit a été courte, Paul Marcon. Comment sont passées les quelques heures après ce trophée décerné à Lyon? Parce que vous étiez très bien entouré. Il y avait une ambiance qui, j'avoue, m'a beaucoup frappé. On s'est cru dans un stade de foot hier à Lyon à l'occasion de ce concours.
Oui, il y avait une ambiance incroyable. C'est l'ambiance qu'on aime dans ces finales de Bocuse d'Or. La nuit a été effectivement un petit peu courte. On a été pas mal sollicité hier soir. On a essayé de profiter un petit peu du moment, malgré la fatigue quand même de cette journée de concours extrême et de ces longues heures de compétition.
Concours extrême. Pourquoi employer ce mot extrême ? Qu'est-ce qu'elle a d'extrême, cette compétition ?
C'est notre Coupe du Monde à nous. C'est la plus grande compétition internationale de cuisine. C'est un concours qui est très long. On a 5h30 de cuisine, mais on a aussi des temps d'installation, des temps de rangement ensuite qui sont aussi minutés. Donc en fait, on est vraiment à 100% de nos capacités sur pratiquement 8 heures non-stop. Donc c'est vraiment une journée marathon. Et en plus, quand on passe comme nous la deuxième journée de compétition avec tout de suite l'enchaînement des résultats, ça fait des bonnes journées comme hier. Mais bon, quand le résultat est là, c'est incroyable.
Vous avez dit que c'était un rêve de gosse parce que vous avez grandi dans le restaurant familial 3 étoiles à Saint-Bonnet-le-Franc en Haute-Loire. C'est cette histoire familiale qui explique ce rêve qui est né en vous ?
Oui, je pense que forcément, j'ai vécu au plus près de ce concours-là depuis très jeune et j'ai eu la chance d'être dans les gradins en 2005 quand Serge Viera l'a remporté. Et moi, avec des yeux d'enfant, de voir cette ambiance dans le public qui existait déjà en 2005, ça m'a donné envie d'y être à la place. Et puis, comme je suis un compétiteur, j'avais envie de me voir au même endroit que lui. Et puis, en rentrant dans le métier, en commençant à faire des concours de cuisine, je me suis dit, après tout, pourquoi pas, d'un rêve, c'est devenu un objectif et puis aujourd'hui une réalité. Donc c'est un bel accomplissement pour moi et puis pour toute l'équipe qui m'accompagne depuis des mois.
Vous dites compétiteur et c'est vrai que vous êtes préparé comme un champion, Paul Marcon. Vous aviez un coach technique, vous aviez un sophrologue, vous aviez un accompagnateur physique. C'est presque une équipe de Formule 1, une équipe de foot, votre histoire.
Oui, complètement. On se doit d'être vraiment prêt sur tous les sujets possibles et on s'entraîne comme des sportifs. Et puis quand on voit la journée de hier, c'est un petit peu comme quand on mange en faisant du sport. Quand on prend pas, on prend une fringale. Et puis par contre, quand on le prend, on s'en rend pas vraiment compte. Là, c'est un peu pareil. On a été vraiment lessivé hier de cette journée marathon. Donc on avait bien besoin de toute cette préparation en amont, à la fois physique pour supporter sur toute la durée du concours. Et puis mental pour supporter le fait d'être à domicile, de représenter la France, de porter le drapeau et puis de travailler dans cette ambiance de stade de foot et de brouhaha permanent.
Qu'est-ce que vous avez dit à votre père, Régis, qui avait décroché ce même trophée il y a 30 ans ?
Je lui ai pas dit grand-chose, je l'ai pas beaucoup croisé pour vous avouer. On a été beaucoup sollicité hier soir, je l'ai croisé rapidement. Mais en tout cas, il était très fier et donc ça me fait évidemment... très plaisir d'avoir rendu tout le monde fier, mais pas que lui d'ailleurs, une bonne partie de la famille qui était là dans les tribunes, des amis aussi. Ils ont mis une ambiance incroyable et c'est des moments qui restent gravés.
Le retour au fourneau, c'est pour quand ?
On a un petit peu de rangement à faire quand même maintenant, parce que après cette journée intense, mais on va prendre un petit peu de temps quand même pour souffler. Et puis moi, je vais retourner au restaurant, à une vie un peu plus normale, parce que depuis un an, c'est une parenthèse incroyable, mais qui n'est pas tout à fait la vraie vie d'un cuisinier. Donc je vais retourner au travail rapidement fin février.
Merci en tout cas d'avoir pris quelques minutes pour partager votre joie avec les auditeurs de ce 13-14. Paul Marcon, Bocuse d'Or 2025. Là aussi, c'est une compétition, le 51e prix du Livre Inter. Vous connaissez depuis ce matin le nom de la présidente du jury, Marie-Hélène Lafont, pour entourer la romancière originaire du Cantal. Il nous faut maintenant des jurés, 12 femmes et 12 hommes. Vous pouvez candidater à partir de maintenant et jusqu'au 3 mars. Vous le faites via le site internet de France Inter. Vous le faites aussi par courrier en nous écrivant. Allez-y, soyez nombreux à nous rejoindre 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, on parle de votre épargne, l'épargne des Français qui a battu des records l'an dernier. Si vous avez fait ce choix ou pour toutes vos questions à notre invité, j'attends vos appels. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton avec une famille d'accueil thérapeutique qui vit chez elle avec des patients, un véritable métier pour aider les personnes atteintes de troubles psy, métier qu'on découvre toute cette semaine. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cyril Petit du journal Ouest France et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui ?
Eh bien de Rennes en Ille-et-Vilaine à Montigny, en Arouest dans l'Aisne, en passant par Cluse en Haute-Savoie, on verra comment les communes font la chasse aux mégots.
Et avec vous Frédéric, une comédienne.
Céleste Bonnequel, que vous pouvez voir en ce moment sur la scène du Théâtre de l'Atelier à Paris, dans la pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde. Et avec elle, c'est la chanson Brigitte que nous écouterons. Brigitte de Brigitte Fontaine.
Évidemment, tout cela se tient. Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
L'Agir Carco est à vous.
Oui, ça c'est vrai. J'ai fait mes simulations de retraite sur le site de l'Agir Carco. J'avais 2-3 questions. Après, j'ai eu une conseillère au top. Elle connaissait et mon dossier et son boulot, ce qui m'a rassuré. Je me suis senti entre de bonnes mains, bien accompagné.
Parce que la retraite complémentaire, c'est le patrimoine de tous les salariés du privé, vous serez toujours chez vous dans les 600 lieux d'accueil et de conseil de l'Agir Carco. Et en plus, c'est gratuit. Agir Carco, la retraite a de l'avenir. Rendez-vous sur agircarco.fr.
Un rêve à portée de main. Jusqu'au 31 janvier, profitez du meilleur des technologies Audi à bord de l'Audi A1 Sportback Design TFSI à partir de 290€ par mois avec un premier loyer de 2500€. N'hésitez plus. Rendez-vous dès maintenant sur audi.fr ou chez votre partenaire Audi.
Offre en LLD réservée aux particuliers sur 37 mois et 30 000 km dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur audi.fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
France Inter, partenaire du film Un parfait inconnu de James Mangold. New York, au début des années 60, Bob Dylan, 19 ans, débarque du Minnesota dans le West Village avec sa guitare et un talent hors norme.
Make some noise, Big D.
Un parfait inconnu avec Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning et Monica Barbaro. Au cinéma le 29 janvier, un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Temps agité et grande prudence bien sûr près des cours d'eau du Nord-Ouest.
Oui, les crues se propagent vers l'aval, les niveaux sont vraiment très élevés. Hein. Vigilance orange maintenue sur Calvados, Orne, Mayenne et Maine-et-Loire. Et vigilance rouge pour Ille-et-Vilaine, Morbihan et Loire-Atlantique. Les crues sont exceptionnelles. Le vent souffle encore un peu partout, 90 à 100 km à l'heure attendu sur le littoral atlantique. Sur le sud-ouest, de nombreuses averses, parfois orageuses avec du grésil. Beaucoup de neige sur l'ouest du massif central avec un fort risque de coulée de neige. Entre la Bretagne, les Charentes, le bassin parisien et le nord de la Seine, là aussi des averses, quelques éclaircies tout de même de temps en temps. Ailleurs, on a des pluies plus irrégulières, de la neige vers 1000 mètres sur les massifs, toujours un risque d'avalanche sur les Alpes. Des températures qui baissent mais restent douces, 9 à 13 degrés attendus, jusqu'à 17 en Méditerranée. Et puis demain, ça sera à nouveau très perturbé sur le nord-ouest avec de nouvelles pluies conséquentes sur les zones déjà très touchées. Et on aura aussi beaucoup de vent, jusqu'à autour de 100 km à l'heure sur la Bretagne et sur l'ouest des Pyrénées.
Voilà, nouvelle tempête demain sur l'ouest du pays. Merci Élodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Sarah Le Gouez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes la secrétaire générale du Cercle de l'Épargne, qui est un cercle de réflexion qui rassemble des spécialistes de l'épargne, de la retraite, mais aussi de la prévoyance. Vous êtes juriste spécialisée en finances publiques. Vous avez aussi travaillé par le passé pour le député Les Républicains Gilles Carrez, quand il était rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale. Deux sujets pour vous aujourd'hui. D'abord l'épargne, épargne record des Français l'an dernier, plus 38 milliards d'euros pour le livret A et pour le livret de développement durable et solidaire. On a les chiffres depuis quelques jours. Et puis la baisse du taux du livret A, ça c'est à partir de samedi qui va passer de 3 à 2,4%. Vous ajoutez toutes vos questions sur l'épargne et sur la retraite. Allez-y, 01 45 24 7000. Vous passez également via l'application France Inter. Le numéro que je viens de donner, c'est le numéro qu'a composé Mariette. Bonjour Mariette.
Bonjour monsieur.
Vous nous appelez du département de l'Ariège. Oui. Mariette, vous avez épargné tout au long de... de votre vie ?
Nous avons épargné, nous avons bien vécu, mais nous avons épargné. Et pourquoi on épargnait ? Ben pour prévoir, moi dans ma tête, personnellement, c'était assurer l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants, les aider, parce que nous on avait tiré sur la corde quand on était jeunes, et si on peut les aider. Donc aujourd'hui, nous voilà arrivés à retraiter, une bonne épargne, et puis l'année dernière, mon mari a eu une hémorragie cérébrale. Uh-huh. Il a passé 2 mois et demi dans les hôpitaux. Il est ressorti pas mal. Mais il est en EHPAD aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez le prix des EHPAD, ce que ça coûte. Il n'est pas dans un mouroir, il est dans un EHPAD très noble.
Alors moi, je connais les prix, mais je ne connais pas le prix que vous payez, Mariette.
Moi, je paie 3 000 euros par mois. Mais il est bien. Donc, l'épargne, aujourd'hui, je l'ai entamée, et elle fond comme neige au soleil, mais quel bonheur.
Vous ne regrettez évidemment pas d'avoir épargné, et vous comprenez pourquoi vous l'avez fait. Vous continuez de donner à vos enfants aussi en même temps, vous les aidez aussi?
Moins qu'avant.
Ouais.
Mais pour le moment, c'est ça, après on verra. Mais pour l'instant, je sais que mon mari, il a comme moi tiré sur la corde, il a économisé. Et aujourd'hui, eh bien, il va là où il doit aller l'argent. Mmh. Donc j'espère que si on taxe l'épargne, on tiendra compte de ceux qui épargnent pour spéculer, pour... Bon, maintenant, ceux qui spéculent, ils ne savent pas non plus ce qui les attend. Hein. Donc, parce que moi, je ne pensais pas à ça. Mais heureusement que j'ai un peu d'épargne.
Et qu'elle est là aujourd'hui.
Et puis l'État, il ne m'aide pas. Il m'aide moins sûrement que si j'étais à la rue.
Ça fait beaucoup de questions et beaucoup de thèmes à évoquer avec notre invité. Merci infiniment, Mariette, pour votre appel. Sarah Le Guez, le témoignage de Mariette est intéressant. Est-ce que c'est la logique, au fond, des Français qui épargnent? Est-ce que c'est aujourd'hui une épargne de précaution, de se dire on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, l'avenir proche ou l'avenir lointain?
Alors effectivement, nous dans le cadre donc du Cercle de l'épargne, on mène des enquêtes tous les ans sur justement les attentes des Français en matière d'épargne et de retraite, parce que le cas de Mariette le montre bien, c'est que on épargne pour ses vieux jours. Et dans le cadre de notre enquête, ce qui a été mis en évidence, c'est que les Français épargnent d'abord pour prévoir l'avenir, épargne par précaution. Ça se ressent dans ce que vous disiez sur le taux du livret A, parce qu'on cherche de l'épargne disponible de suite. Ils le font ensuite. Le deuxième sujet, c'est la retraite. Qui dit retraite dit avoir des revenus suffisants quand on devient vieux, pour compléter les pensions, parce que les Français jugent aussi que le niveau des pensions est insuffisant pour vivre correctement. Et parce qu'il y a aussi l'enjeu de la dépendance, comme l'a évoqué Mariette, qui doit prendre en charge le financement d'un EHPAD. Et Dieu sait que ça coûte... le coût est important.
3000 euros par mois, nous a-t-elle dit, pour son mari. Vous nous dites que les Français épargnent en prévision de leur retraite. Est-ce que ça, c'est nouveau? Et est-ce que c'est aussi lié peut-être aux inquiétudes sur la viabilité du système, aux différentes réformes qui ont été votées ces dernières années?
Alors, la retraite, ça fait longtemps qu'on mène cette enquête. La retraite constitue un sujet anxiogène pour les Français depuis des années. Ce qu'on a pu constater, c'est que de plus en plus, les jeunes prennent possession de ce sujet, et on le voit notamment à travers les produits de retraite, notamment le PER qui a été créé, le plan d'épargne retraite qui a été créé en 2019 par la loi Pacte, est particulièrement jugé intéressant par les plus jeunes et par les Français de manière générale. Aujourd'hui, dans le cadre de la dernière enquête qu'on a menée dans le cadre du Cercle de l'épargne, les Français mettent en premier l'assurance-vie, parce que l'assurance-vie permet de prendre en charge, d'assurer une épargne disponible et d'épargner sur du long terme, et notamment percevoir une rente, un complément de revenu à la retraite pour notamment financer un EHPAD, pour revenir à ça. Et on a en deuxième le livret A, parce que c'est disponible et neutre fiscalement. Et on l'a vu là encore dans le témoignage de Mariette, les Français sont attachés aussi à la neutralité fiscale. Et enfin, en troisième vient le PER, qui démontre une fois de plus que la retraite aujourd'hui constitue un sujet anxiogène chez les Français.
Même si les PER, c'était 13% des actifs en 2022 qui détenaient un PER d'entreprise, 10% pour un PER individuel. Est-ce que c'est risqué d'ailleurs ces placements-là? Est-ce qu'on risque pas de tout perdre finalement?
Alors le PER fonctionne comme l'assurance-vie, c'est-à-dire qu'il y a deux poches disponibles. Le fonds euro, qui est une épargne garantie, et les unités de compte qui offrent des potentiels de rendement supérieurs, mais là on rentre dans la logique du marché action, avec, selon les produits, ça peut être des obligations, ça peut être des fonds de placement, et donc selon la nature des produits choisis, il y a une proportion de risque plus ou moins importante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les unités de compte qu'on peut trouver à la fois dans l'assurance-vie ou sur l'épargne retraite, la logique, en particulier dans le cadre de l'épargne retraite, c'est de lisser au fur et à mesure, parce qu'on épargne sur une longue durée, et plus on se rapproche de la retraite, évidemment, on sécurise son placement de telle sorte à ce qu'on évite de prendre des risques.
Ce qui a pu nous surprendre dans l'évolution des dernières années, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup d'inflation. Donc les Français ont payé leurs matières premières, leurs biens de consommation courante plus cher, mais ils ont quand même réussi à garder de l'argent pour épargner.
Alors, ce qu'on a pu constater, c'est que pendant la période d'inflation, les Français ont majoritairement épargné. Si on prend aujourd'hui le taux d'épargne...
Ils ne sont pas servis de leur argent pour consommer, finalement.
Absolument. Il y a eu un effet Covid, il y a eu un effet... De toute façon, les commerces étaient fermés, donc là, il y a eu un boom du taux d'épargne. Mais ce qu'on a pu constater, c'est qu'une fois qu'on est sorti du Covid, et quand il y a eu la montée de l'inflation, notamment en lien avec la crise ukrainienne, le conflit ukrainien, il y a eu, contrairement à ce qu'on aurait pu penser... une influence vers l'épargne.
On n'a pas vidé les livrets A pour absolument. Maintenir son pouvoir d'achat, finalement.
Absolument.
Face à l'inflation. Ça n'a pas été le réflexe. Est-ce qu'on est un peuple d'épargnants, nous, Français, Sarah Le Gouez, par rapport à nos voisins? Est-ce qu'on a un comportement atypique vis-à-vis de l'épargne?
Alors, on n'a pas un comportement atypique en soi. C'est-à-dire que on est effectivement plus épargnants que les autres.
Oui.
Si on prend l'Union européenne, on a les Allemands qui épargnent beaucoup. On est autour de 20% de taux d'épargne, un peu plus de 20%. En France, depuis en moyenne avant la crise Covid, donc on était autour de 15%. Depuis, on est plutôt autour de 18%. Donc là, on voit que justement, climat anxiogène, l'inflation, c'était anxiogène. La crise politique à laquelle on assiste aujourd'hui, n'est pas non plus rassurant. Les retraites constituent aussi un sujet qui incite massivement les Français à épargner, à préparer leurs vieux jours. Donc tous ces éléments pris bout à bout font qu'en France, où on a déjà cette culture plutôt fourmi, évidemment, en période plutôt anxiogène, ce penchant tend à s'accentuer.
Gérard est au Standard Inter. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour.
D'où nous appelez-vous?
Je vous appelle de Berger-la-Ville.
Où ça?
Dans le Mâconnais.
Dans le Mâconnais, tout près de Mâcon. Nous vous écoutons Gérard.
Oui, je crois qu'il y a une loi qui a été votée à l'époque par une proposition de loi de M. Sapin.
Ancien ministre de l'économie.
Sapin 2.
Oui.
Et je crois que cette loi prévoit, dans des circonstances exceptionnelles, où l'État serait financièrement en grosse difficulté, qu'il pourrait y avoir une ponction sur l'épargne des Français. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est possible?
Merci Gérard pour cette question, Sarah Le Gouez.
Alors, je vois tout à fait à quoi vous faites allusion. En fait, il ne s'agit pas d'une ponction. C'est simplement ce qui avait été mis en place. C'était un peu en réponse à ce qu'on a pu constater, notamment aux États-Unis, c'est d'éviter qu'il y ait des mouvements massifs de retrait qui pourraient mettre en difficulté le système financier. Parce que quand on parle du système financier derrière, c'est l'épargne des Français. Si tout le monde sort d'un coup, là, il peut y avoir un risque. Et donc, c'est une mesure qui est plutôt destinée à sécuriser l'argent des Français, l'épargne des Français, plutôt que... On n'est pas dans une logique de ponctionner, c'est simplement...
C'est-à-dire qu'en cas de grave crise, on ne pourrait pas retirer tout notre argent de la banque,
il ne
serait pas non plus saisi par l'État, mais il serait juste immobilisé, il ne serait pas totalement disponible.
Absolument.
C'est ça la mesure. Ce qui m'amène à ce constat, la France a une dette historique, mais de l'autre côté, les Français, eux, épargnent, mettent de l'argent de côté. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour la stabilité financière? Est-ce que les agences de notation, elles regardent aussi l'épargne des Français au moment d'attribuer leurs notes?
Alors, l'épargne des Français, effectivement, constitue un atout pour la France et explique aussi pourquoi les taux
les taux auxquels on nous prête.
Voilà, exactement. Les taux à laquelle la France emprunte sont pas aussi catastrophiques que ce à quoi on pourrait s'attendre quand on écoute effectivement la situation et le montant du déficit auquel on fait face. Et l'épargne des Français, il faut le rappeler, ce n'est pas de l'argent qui dort. C'est l'épargne qui à la fois finance la dette. Quand vous investissez, quand vous épargnez dans votre assurance-vie...
Il sert à quoi d'ailleurs cet argent, Sarah Le Gouez?
Alors, il y a, selon la nature des placements, si je vous prends par exemple le livret A, quand vous épargnez dans votre livret A, vous financez le logement social. Le LDDS, livret de développement durable et solidaire, a plutôt vocation à financer justement la transition écologique et l'économie sociale et solidaire. Quand vous investissez dans votre assurance vie, vous financez aussi l'économie et la dette vous permettez aussi à l'État de payer une partie de sa dette. Mmh. Donc, l'épargne des Français constitue aussi un rouage dans l'économie et finance l'économie.
Question de Benjamin via l'application France Inter. Est-ce qu'une certaine sobriété et une remise en question de la surconsommation peut expliquer l'augmentation de l'épargne? Les Français modéreraient leur consommation, seraient plus sobres et donc ils auraient plus d'argent pour épargner. Sarah Le Gouez, est-ce que c'est des choses que vous avez pu constater ou analyser?
Alors, il y a des études qui montrent effectivement que les Français, notamment, il y a eu le Crédoc qui a évoqué ça récemment, qui veulent privilégier l'économie locale, notamment dans une logique de tenir compte de la transition écologique, oui, et de limiter effectivement son impact de ce point de vue-là. Donc il y a un peu de ça, mais globalement, si les Français limitent leur consommation et privilégient l'épargne, c'est d'abord un signe d'anxiété.
Pour la
volonté, ouais. Voilà, tout à fait.
Un dernier mot, dernière question, réponse brève, s'il vous plaît. Combien est-ce qu'il faut avoir de côté? Quel est votre conseil?
Alors,
c'est une fois son salaire, deux fois son salaire, alors, si on peut, évidemment.
Alors, tout dépend. Il y a l'épargne de précaution où, généralement, on dit deux, trois mois de salaire sur l'épargne de précaution. Donc, quand on parle d'épargne de précaution, c'est le livret A, notamment. Ouais. Ensuite, si on veut financer des projets de vie, si on veut financer un bien immobilier, la reprise d'une entreprise ou la création d'une entreprise, on est plutôt sur de l'épargne longue. Si on veut préparer sa retraite, c'est plutôt dans le cadre d'une épargne longue sur 30, 40 ans. Donc tout dépend la nature
et du projet.
Du projet, tout à fait.
Merci Sarah Le Gouez d'avoir répondu à nos questions et aux questions des auditeurs de France Inter. Aujourd'hui, secrétaire générale du Cercle de l'Épargne. 13h45. Notre feuilleton, nous passons cette semaine dans une famille d'accueil thérapeutique. Isabelle et Franck, employés par le centre psychothérapeutique de Nancy, accueillent chez eux à Neuvillé-sur-Moselle trois patients qui sont atteints de schizophrénie, Philippe, Franck et Marcel. Alors c'est un véritable métier, on le découvre cette semaine grâce à Lise Roosevelt, que l'on retrouve à l'heure de préparer le déjeuner.
Tiens, tu te laves les mains, s'il te plaît. Oh, bah les mimosa, l'entrée, elle va pas être trop jolie, hein. Je leur ai proposé d'éplucher les œufs. Voilà, ils me disent oui. Bah, ils les épluchent. Ils m'auraient dit non. Bah, j'insiste pas, je l'aurais fait. Ils sont là, en fait, pour être bien. Ils sont pas. Il n'y a pas d'obligation. L'objectif, c'est pas ça, c'est de bien vivre ensemble. Et à leur rythme. Respecter leur rythme, tout en les stimulant.
Je m'appelle Philippe, voilà, ça fait 11 ans que je suis ici, alors je suis content, j'ai une belle famille, je ne trouverai jamais une pareille que ça, en tout cas.
Alors qu'est-ce que vous faites, Philippe?
Je suis dans la vaisselle,
d'accord.
Voilà, pour qu'on puisse mettre la tempe à midi après.
Puis c'est votre activité favorite, le lave-vaisselle, c'est ça?
Oui, puis le ménage aussi, je participe au ménage.
Et vous pourriez pas vivre tout seul, Philippe?
Non, j'ai eu un appartement, c'était la galère. J'ai tenu à peu près quoi, 8 mois, puis après j'ai pété les plombs. Hein.
Ça vous dérange pas, je reste pas avec vous?
Non.
Hein, d'accord. Hop. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. Si vous rencontrez des difficultés, d'accord. Merci. En fait, je leur laisse faire les activités qu'ils souhaitent, en fait, pour maintenir leur acquis, en fait. À aucun moment je les assiste dans une journée, je vais les accompagner. Mais en fait, tout ce qu'ils sont capables de faire, ils font. Même le ménage dans leur chambre. Je vais toujours superviser, par exemple. Je supervise, mais ils font. Ils participent, ils sont chez eux.
Donc ils ont chacun leur petite mission.
Voilà, leur mission, voilà. Alors, Philippe, ça va être vider la vaisselle, aller au container. Franck, ça va être mettre la table, débarrasser la table. Chacun a quand même sa place, en fait.
Et ça leur apprend aussi l'autonomie.
Voilà, l'autonomie et surtout le maintien des acquis. Parce qu'en fait, moi, je ne veux pas accueillir des personnes et les assister, en fait. C'est surtout ça. Un bon gigot de 5 heures. Dès le matin, ça y est.
Toujours un moment important, les repas?
Ah bah, des moments très importants, les repas. Fédère, comme on dit.
Pourquoi?
Ah bah, c'est beaucoup d'échanges autour des repas. Et puis, Ça permet aussi de lâcher prise quand on mange autour d'une table, quand on est posé.
Et c'est important pour les soigner, d'échanger, d'être dans la communication.
Voilà, c'est l'écoute. Donc le repas, on est autour d'une table, on les écoute encore plus. L'autre jour, on a préparé des petits sablés, ils se sont remémorés des souvenirs d'enfance. Ça permet de les stimuler et de les comprendre davantage. Ah, Marcel, les chocolats, il adore.
Ah, c'est vrai. T'as pas chocolat ?
Ça, c'est encore un élément, les repas, un élément de la vie de famille, mais voilà, qu'il n'y a pas l'hôpital, quoi.
Il n'y a pas l'hôpital. On n'est plus institutionnalisé. En fait, c'est de la communauté, en fait. Nous vivons en communauté. C'est tout simple, en fait.
Lise Rosweil pour ce feuilleton. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h50. Le mardi, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ses petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires de mégots.
Et on file Jérôme à Rennes en Ille-et-Vilaine. En novembre, 5000 cendriers de poche ont été distribués chez les buralistes, lit-on dans Ouest France. Alors l'objectif, lutter contre le fléau des mégots de cigarettes dans l'espace public. Et ce combat a lieu en ce moment partout en France. Tanne dans le Haut-Rhin, Crèvecœur, Le Grand dans l'Oise, Saint-Paul à La Réunion ne sont que quelques-unes des communes qui activent leur plan zéro mégot. Et hier, la métropole de Montpellier dans l'Hérault a présenté son plan. Parmi les outils, 20 000 cendriers de poche là aussi, des centaines d'autres et des éteignoirs dans les rues ou sur les façades des commerces, sans oublier des autocollants de sensibilisation avec ces mots « Ici commence la mer ». Un peu plus au nord, en Haute-Savoie, les communes de Cluses, Passy et Chamonix testent un système de grille inventé localement qui se fixe sur les bouches d'égouts et empêche les mégots de continuer leur course avec les eaux pluviales, nous apprend Radio Mont-Blanc.
Car si on ne le ramasse pas, ce mégot a une très forte probabilité en fait, de finir dans l'océan, c'est ça ?
Oui Jérôme, 40% y échouent selon le centre d'information sur l'eau et un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres. Il contient une centaine de substances nocives, voire cancérigènes, qui contaminent à la fois l'air, les sols et l'eau. Et puis, il faut savoir que le temps de décomposition d'un filtre de cigarette peut prendre jusqu'à 10 ans. Ainsi, sur Ici Toulouse, ex-France Bleu, en octobre dernier, Florence Ducroquet, présidente de l'association de préservation de l'environnement Champ d'Action, a lancé cette alerte. Je la cite, « Les mégots par terre sont une bombe atomique pour l'écologie et pour notre santé. »
Est-ce qu'on sait combien de mégots sont jetés en France ?
Eh bien, 20 à 25 000 tonnes chaque année, selon le ministère de la Transition écologique. La ville de Paris déclare ramasser plus de 2 milliards de mégots par an et la métropole Aix-Marseille environ 500 millions. Tous les 10 mètres de voirie en France, on trouve en moyenne 1,3 mégots, un chiffre qui va de 0,8 mégots en milieu rural à 4,5 mégots en pleine ville. Alors, ces chiffres, Jérôme, ont été fournis par l'éco-organisme Alcom. Créé en 2021 et agréé par l'État, il perçoit, selon le principe du pollueur-payeur, l'éco-contribution des cigarettiers et utilise cet argent pour aider les collectivités dans la lutte contre les mégots. Aujourd'hui, 1300 communes sont accompagnées par Alcom qui verse en fonction de la population entre 50 centimes et 2,08 euros par habitant pour ce combat. L'organisme fournit par exemple des cendriers et propose l'enlèvement des restes de cigarettes à partir de 100 kilos de mégots. Et sachez, Jérôme, qu'un objectif a été fixé par l'État, réduire de 40% d'ici à 2026 le nombre de mégots qui souillent l'espace public. On en est encore loin, hein, même si certaines communes réussissent. Rouen, en Seine-Maritime, a constaté une baisse de 50% des mégots présents au sol.
Donc on peut y arriver. On termine, Cyril, par ces communes qui lancent des initiatives citoyennes ou répressives.
Oui, au beau jour reviennent les opérations de ramassage citoyen. Point d'orgue le 24 mai avec le mégoton organisé au niveau national. Et puis certaines villes bichonnent les collecteurs. Le Parisien rapporte qu'à Darnétal, en Seine-Maritime, la mairie a offert un pot de miel provenant des ruches municipales pour qui a rapporté une bouteille de 1,5 litre remplie de mégots, moins sucrée mais plus salé. Jérôme, sachez que l'amende habituelle pour un mégot jeté par terre est de 68 euros, mais certaines communes vont bien plus loin. Montigny, en Arouaise, 300 habitants dans l'Aisne, a mis en place l'an passé une amende à 1500 euros.
Et vous ne craignez rien, Cyril, puisque vous êtes non-fumeur. Cyril Petit, du journal Ouest France, de C'est la France. Ah, c'est une chanson avec vous, Frédéric Pommier, et avec aujourd'hui la jeune comédienne Céleste Brunkel.
Comédienne que l'on a pu voir notamment dans la série En thérapie. Elle est actuellement à l'affiche du Théâtre de l'Atelier à Paris dans Juste la fin du monde, pièce de Jean-Luc Lagarce. Et c'est de Brigitte Fontaine qu'elle a choisi de me parler, sa chanteuse préférée, celle qu'elle écoute le plus souvent.
Je l'ai découverte quand j'étais petite, donc je ne savais pas vraiment qui c'était. C'était la chanson « Il y a des azous ».
Il y a des azous dans mon quartier, moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, Anne de Séjour.
Et elle chantait en duo avec M, et moi je ne savais même pas qu'il y a ces deux personnes distinctes. Je pensais que c'était une et même personne, et j'ai compris plus tard que c'était Brigitte Fontaine. Et ça m'évoquait plein d'images. Enfin, je trouvais ça génial que des adultes fassent ça.
Quelque chose de ludique.
Voilà. Qui n'était pas adressé forcément à des enfants, mais qui pouvait plus parler à des enfants qu'à des adultes, à un endroit où il y avait une vraie folie, quoi.
Vous compreniez le mot zazou ?
Non, mais c'est ça qui était bien.
Parce qu'il était rigolo.
Oui, parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dedans, quoi. Enfin, c'est comme de la poésie, quoi. Il y a un mystère dans la chanson et tu te l'appropries et c'est ça qui fait que tu t'en rappelles et que c'est beau, quoi.
Brigitte. Toujours au fond des cafés. Comme au fond d'un bois. Tu ne veux pas qu'on te voie.
Brigitte, c'est donc le titre de cette chanson, Frédéric.
Une chanson de 2 minutes 20, extraite du quatrième album de Brigitte Fontaine, lequel est sorti en 1972, soit 30 ans avant la naissance de Céleste Brunkel.
C'est une chanson du coup qui est assez courte, il n'y a pas beaucoup de paroles, il y a une écriture assez simple aussi, mais j'aime bien les images qu'elle propose. Et c'est des images où on dirait que c'est un peu le début d'un rêve, où... Il y a une espèce de truc un peu micro et macro qui se mélange, où c'est des images qui vont pas ensemble, qui se rassemblent, le café, le bois et les toits. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui me plaît et qui va vers le rêve, comme ça.
Vous, vous voyez quoi quand vous entendez cette chanson-là ? Vous la voyez, elle ?
Je la vois, elle, au fond de son café, ouais.
Et dans un bois aussi ?
Ouais, et sur les toits, comme une libellule. C'est la libellule, Brigitte. Et c'est comme je disais tout à l'heure, cette espèce de glissement vers le rêve. C'est la chanson qui est juste à cet endroit-là, quoi.
Vous, vous rêvez beaucoup ?
De plus en plus, ouais. Enfin, je m'en rappelle de plus en plus. Oui.
Est-ce qu'il y a des rêves que vous faites régulièrement ?
Oui, moi maintenant, mais avant, j'avais un rêve récurrent où je passais du métro au Monoprix de Montparnasse et c'était toujours la même chose. Et à un moment, je me retrouvais en haut d'une falaise. Enfin, c'est des images comme ça qui revenaient. Mais avant, j'essayais justement de m'éloigner de mes rêves et de séparer vraiment la nuit du jour. Et maintenant, j'essaye de m'en souvenir plus et d'accueillir plus mes rêves qu'avant.
Tu ne veux pas qu'on te voie.
Dans ce rêve que vous venez de décrire, il y a trois lieux.
Ouais.
Le Monoprix, la gare Montparnasse et une falaise.
Ouais.
Dans cette chanson, c'est un peu la même chose. Il y a un bar.
Un bois et des toits. Ouais, c'est vu comme ça, ouais.
C'est comme si vous faisiez un rêve qui était finalement très proche de cette chanson.
Finalement, oui. C'était pas un hasard.
Vous vous sentez proche d'elle ?
Je sais pas si je me sens proche d'elle, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour elle et sa liberté aussi, et la place qu'elle prend dans un monde très normé, et comment elle arrive avec beaucoup de délicatesse et de politesse en plus, c'est ça que je trouve magnifique, à un peu décaler les choses, et c'est ça qui me touche. Et c'est ce qui m'accompagne le plus, quoi.
Les chansons de Brigitte Fontaine.
Ouais, j'écoute beaucoup de choses, mais je reviens toujours à elle.
Toujours au fond des cafés.
Brigitte de Brigitte Fontaine, c'était donc Frédéric, le choix de Céleste Brunkel.
Céleste Brunkel, qu'on peut retrouver en ce moment aux côtés de Vincent de Dienne au Théâtre de l'Atelier à Paris, dans la pièce de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde.
Merci Frédéric et à demain. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Vous allez être très nombreux aujourd'hui.
Ah oui, faut-il avoir peur de la population mondiale ? Question de démographie aujourd'hui.
8 milliards dans un seul et même studio. À tout de suite.